Bonjour et merci beaucoup tous d'être venus donc pour cette première session de l'année des Midi de la Recherche. C'est une grande joie de pouvoir accueillir donc une chercheure en résidence ici à l'ENSIB, donc Rosanne Versendahl, qui est une spécialiste du domaine du 15e, 16e siècle français et néerlandais donc de l'Université d'Utrecht. Elle est ici avec nous pour toute cette année universitaire, donc vous aurez l'occasion de la recroiser et de lui poser de plus amples questions si elle n'a pas répondu à tout aujourd'hui. Rosanne donc a défendu sa thèse il y a maintenant 1 an et demi, donc aux Pays-Bas, autour d'un sujet qu'elle a écrit d'ailleurs en français, hein, Le mendement joyeux et la culture joyeuse en France. Dans les anciens Pays-Bas du 15e au 17e siècle, vous voyez qu'on présente les thèses d'une manière un peu plus élégante aux Pays-Bas qu'ici, un peu plus sous la forme d'un livre. Mais évidemment, c'est le genre de travail, de thèse qu'on essaye de transformer après donc dans une monographie qui est plus facilement accessible et lisible. Et c'est autour de cette question qu'on va parler aujourd'hui et présenter un peu les recherches. Alors, Rosanne, merci d'être là. Et donc, pour commencer, évidemment, la question la plus évidente et qui doit se poser un peu à tout le monde, c'est quoi un mendement joyeux au sein donc d'une culture joyeuse?
Ouais, tout d'abord, merci pour l'invitation et aussi merci pour être venus si nombreux. En fait, ça, c'était la question principale de ma thèse. Qu'est-ce qu'un mendement joyeux? Parce que dans le passé, on avait signalé ces textes, ouais, on a construit un corpus préliminaire, mais donc les chercheurs jusqu'au moment où moi j'ai commencé mes recherches, ne savait pas du tout ce que c'était, donc un moment joyeux, et à quoi ça sert, notamment la période 15e, 16e, 17e siècle. Mais donc, j'ai repris ce corpus préliminaire, j'ai pu ajouter des textes pour effectivement formuler une réponse à cette question. Alors, qu'est-ce qu'un mendement joyeux? Et dans le sens technique du terme, si on peut le dire comme ça, un mendement joyeux, c'est une parodie d'une ordonnance officielle. Donc, les ordonnances officielles telles qu'elles étaient promulguées par les rois, les évêques, donc à la fin du Moyen Âge, mais ça continue à la période pré-moderne. Et donc, le mendement joyeux reprend tous les aspects formels de l'ordonnance officielle. Donc, il y a un cadre très rigide parce que c'est donc un moment. Donc, il y a par exemple une intitulation, il y a un message, il y a une salutation, une manière officielle pour conclure ces lettres, parce que ce sont des lettres. Mais le contenu de ces textes diffère des ordonnances officielles parce que le contenu est ludique, parodique, parle des sujets qu'on ne retrouve jamais dans les ordonnances officielles. Et dans ce cas, on peut penser à des ordonnances assez bizarres, par exemple. Il faut se marier 2, 3, 4, 5 fois parce que ça vous permettait d'avoir plusieurs enfants qui peuvent faire partie de l'armée contre les musulmans, par exemple. Donc, c'est une doctrine qui n'était pas du tout acceptée par l'Église, mais qui est donc avancée dans ces moments paradigmes. Et ces textes ont fonctionné dans un cadre plus large de la culture joyeuse. Et donc, le terme culture joyeuse, ce n'est pas une invention de moi-même. C'était donc ma directrice de thèse, Catalavian, qui avait reçu une grande subvention pour découvrir cette culture joyeuse. Donc, le projet de recherche dans lequel j'ai écrit ma thèse était intitulé Uncovering Joyful Culture, donc découvrir la culture joyeuse.
Donc, en fait, c'est un ensemble humoristique, drôle, fait pour faire rire et faire réagir, avec quand même un message plus sérieux derrière.
Parfois oui, parce que en fait ce que j'ai pu montrer dans la thèse, c'est que ces textes abordaient quand même des thématiques bien pertinentes pour les membres d'une communauté spécifique. Et on peut penser aux tensions religieuses entre les catholiques et les protestants, par exemple, mais aussi à l'inégalité sociale, donc la pauvreté comme thème est très, très, très présent dans ces textes. Et les relations entre hommes et femmes sont ici très, très présentes.
Et donc, les textes que tu as choisis et que tu as étudiés sont pour un grand nombre imprimés. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sous quelle forme, à quoi ça ressemble fondamentalement?
Donc le corpus de textes nous est parvenu de manière imprimée notamment. J'ai aussi quelques manuscrits dans le corpus, mais la majorité des textes est imprimée. Et ce sont des livres qui sont très petits en général. Donc, livre en octavo qui compte 8 pages au maximum normalement, voire moins de 8 pages. Parce que ce sont des textes qui sont aussi relativement courts, parce que ce sont des ordonnances qu'on lit à haute voix en général. Et qu'on peut représenter de manière théâtrale aussi. Donc, ce sont des livres très, très, très petits, à bas prix. On voit très clairement pour le choix dans la typographie, mais aussi les gravures, que ce sont des gravures relativement simples. C'est une facture rapide, très souvent. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a perdu beaucoup de textes, je pense.
Voilà. Donc,
je suis déjà contente d'avoir un exemplaire d'un texte. Ouais.
Donc, le plus souvent, il reste un exemplaire de chaque texte.
Oui.
Ouais, donc, ça veut dire que plein ont été perdus.
Oui. Toi, tu es plutôt le spécialiste dans ce domaine, mais je crois qu'il y a beaucoup de textes qu'on a malheureusement perdus. Ouais.
Et ce lien avec l'oralité, avec la mise en scène, est-ce que tu arrives à le voir autrement qu'à travers ce qui te semble être une lecture évidente des textes eux-mêmes?
Oui, en fait, j'ai vraiment essayé dans la deuxième partie de la thèse de reconstruire le contexte festif dans lequel ces textes ont pu fonctionner. Et pour un texte spécifique qui était imprimé à Louvain au milieu du XVIe siècle, j'ai pu retrouver une chronique historique qui parle de la fête, qui nous présente un programme de la fête et qui précise également le moment où on a donc lu le moment joyeux. Et c'était le moment où le roi festif était inauguré. Donc pendant ces festivités, il y avait souvent une autorité festive qui devait donc garantir le bon déroulement des festivités. Et pour cette fête spécifique, j'ai pu combiner une chronique historique et donc un moment joyeux imprimé. Et ça m'a permis aussi de vraiment voir comment ça fonctionne dans un cadre plus large d'événements festifs. Parce que au final, le moment, c'était juste une toute petite partie des festivités. Il y avait plein d'autres activités comme des parades, des banquets, des pièces théâtrales qui étaient jouées. Il y avait des concours aussi.
Donc, quelle est la relation avec, par exemple, le carnaval que tout le monde connaît? Tout le monde connaît l'idée de l'inversion sociale par le carnaval, etc. On retrouve ça dans tes amendements?
Oui, tout à fait, parce que au Moyen Âge et au XVIe siècle, et je pense que ça continue très longtemps dans la tradition plutôt catholique, que le carnaval, c'est vraiment la fête de l'inversion, effectivement. Et on voit que ça de manière très concrète dans le cadre du moment joyeux qui inverse complètement le contenu du moment officiel, du texte officiel. À cette période-là, le carnaval, ce n'était pas limité au mois de février-mars comme aujourd'hui. En fait, il avait ce type de fête tout au cours de l'année, à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai, même les fêtes de mai, on peut les voir comme des activités, bon, pas vraiment carnaval, mais activités d'inversion.
Et donc, c'est des fêtes qui cadencent la vie quotidienne, oui. qui l'accompagnent. Est-ce qu'il te permet de voir un peu, je dirais, d'avoir une vision sur l'humour de cette période,
ouais,
au-delà de simplement l'inversion comme méthode?
Je pense vraiment que, en fait, j'ai pas vraiment utilisé le mot humour dans la thèse, parce que c'est vraiment notre domaine, hein, d'étudier l'humour au Moyen-Âge. Mais personnellement, je pense qu'il n'y avait pas vraiment une distinction claire entre ce qui était donc ludique au humour et la vie quotidienne. Je pense que c'était beaucoup plus intégré. Et c'est la même chose pour le théâtre, par exemple. Donc, on a tendance à voir le théâtre comme un spectacle, hein, comme un espace fermé. Donc, à cette période-là, ce n'était pas le cas. Et je pense que c'est pareil pour l'humour. Donc, les gens, oui, bien sûr, pouvaient reconnaître les codes du monde officiel. Donc, on peut voir qu'il s'agit d'un texte joyeux. Mais j'ai l'impression que ces pratiques d'inversion étaient beaucoup plus intégrées dans la vie des gens qu'aujourd'hui. Donc, ça peut nous étonner de voir des documents comme ça maintenant. Mais pour ces personnes-là, je pense que ce n'était pas nécessairement le cas.
Tu as invoqué la figure de la femme, hein, qui est importante dans sa relation à l'homme et dans sa position sociale. Est-ce que tu peux un peu nous décrire la femme telle qu'elle apparaît à travers cette culture, ce type de mouvement? C'est quoi comme vision de la femme?
Et ça, c'est aussi une très bonne question, parce que la vision n'est pas... n'est pas très clair. En fait, je pense qu'il y a plusieurs types de représentations de la femme. Il y a une première représentation qui est vraiment misogyne, donc il y a des textes qui parlent vraiment de la femme en termes très sexuels, par exemple, mais aussi qui parlent de la violence envers les femmes, domination masculine. Donc ça, c'est et ça, on le savait déjà pour le Moyen-Âge. C'est un peu le stéréotype, hein, de la domination masculine. Hein. Et c'est aussi l'image, hein, que donnent les doctrines de l'Église, par exemple. Par contre, dans les textes joyeux, dans les moments, on voit aussi un pouvoir qui est donné aux femmes. Donc, on voit ici aussi une inversion des rôles. Donc, on voit par exemple des femmes dominatrices qui frappent un homme, ou une dizaine de femmes qui prennent la culotte d'un homme, par exemple. Peut-être que vous connaissez aussi les gravures, c'est une image qu'on retrouve aussi dans l'iconographie. Donc, on voit ça aussi dans les moments joyeux, et je me suis posé la question, mais pourquoi on va inverser les rôles? Et c'était, à mon avis, c'était pour plusieurs raisons. Et une raison qui a aussi été avancée par des historiens, c'est que les hommes créaient aussi une certaine domination par la femme. Donc, c'était aussi une sorte de crainte que ces rôles étaient renversés pour toujours, aussi dans la vie quotidienne. Dans un autre texte, par exemple, on voit aussi que les femmes et les hommes travaillent vraiment ensemble pour, par exemple, récupérer des boissons dont on a besoin pour la fête des carnavals. Donc ici, on voit aussi plutôt une vision de coopération.
D'accord. Ouais. Et donc, ce qui en émerge, c'est une vision de la société qui est peut-être différente à la vision de la société qu'on a par ailleurs. Est-ce que tu penses qu'en fin de compte, ces mandements joyeux tels qu'ils sont imprimés sont là également pour moquer l'autorité, ou c'est simplement quelque chose qui est purement festif?
Je ne pense pas que c'était pour se moquer des autorités officielles, mais je pense plutôt que les deux étaient très complémentaires. Donc, on avait besoin des autorités parallèles ou autorités festives aussi pour réévaluer les normes sociales dans la vie officielle.
Tu es Alain Sib. Je vais donc poser une ou deux questions autour de ça et autour de ces éléments. On voit le rôle qu'a pu jouer, je dirais, une approche du livre, une approche de l'imprimé dans ton travail. Quelle est son importance? À quoi ça t'a servi, en fin de compte, de passer par ce biais plutôt que simplement une analyse purement textuelle, classique?
En fait, ouais, c'est une très bonne question parce que avant de commencer la thèse, j'avais eu une formation purement littéraire. Donc, mon idée, quand j'ai commencé mon projet de thèse, c'était d'étudier les textes d'un point de vue purement littéraire. Mais très rapidement, je me suis dit, mais ça ne marche vraiment pas parce que je ne peux pas faire du sens de ces textes quand j'exclus tout le contexte. Déjà parce que pour beaucoup de textes, on n'a pas de lien avec des festivités réelles. Donc, je vous ai donné un exemple où c'était le cas, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Donc, on a juste les textes. Donc, je me suis dit, mais dans ce cas, il faut que je me concentre sur la matérialité, et donc la façon dont les livres, les textes nous ont été parvenus, transmis. Donc, c'est à partir de ce moment que je me suis intéressée à la matérialité, donc aux livres. Et j'ai découvert que le texte et le contexte du livre, ou la matérialité, sont vraiment en interaction. Donc, si tu regardes donc l'autre côté du livre, vous voyez un exemple très concret. En fait, c'était une gravure sur bois qui accompagnait le texte qui autorise les hommes d'avoir plusieurs femmes. Et on voit très clairement une gravure qui d'un groupe de personnes. À côté, il y a la même gravure, mais de façon inversée. Et donc, au début, je pensais que c'était juste une erreur de l'imprimeur. Mais en repensant ça, je me suis dit non, mais c'est tout à fait exprès. C'est ça l'idée de présenter donc, une gravure de la façon normale et de manière inversée pour montrer qu'il s'agit donc d'un texte qui se moque des conventions officielles. Et donc, on voit très clairement que le livre et le texte sont en interaction. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça tellement fascinant d'approcher ces textes du point de vue de l'histoire du livre, de la matérialité.
Alors, dans le travail que tu as fait les Pays-Bas et la France. Tu as trouvé beaucoup de différences entre les approches ou en fin de compte, c'est une histoire partagée, mélangée? Et est-ce qu'elle est distinctive par rapport au reste de l'Europe?
Ce que moi, j'ai pu constater, c'est que au début, c'est une tradition française. Donc, parodier des ordonnances. J'ai retrouvé les premiers exemples dans la littérature française. Mais en fait, surtout au 15e, 16e siècle, il y avait beaucoup d'interactions entre les régions néerlandophones et francophones. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait des textes qui étaient traduits du français en néerlandais. Donc, on publie les mêmes textes dans des villes comme Anvers, par exemple, un grand centre de l'imprimerie, bien sûr, une ville très cosmopolite, multilingue. Et on voit que ces textes français sont traduits et donc publiés et ensuite diffusés aux Pays-Bas. d'office faire ça, ce n'est pas le cas, ou je n'ai pas pu le voir pour l'instant. Et on voit que la tradition néerlandaise est un peu plus, se présente un peu plus tard que la tradition française alors.
Et Lyon ? Lyon est présent, Lyon est absent, parce qu'on sait
Lyon
que...
est tout à fait présent dans la thèse, parce que beaucoup de textes français étaient imprimés à Lyon par des imprimeurs comme Japon Moderne, par exemple, qui a publié toute une série de moments joyeux, de textes festifs en général. Mais je me suis également dit que, en fait, ça ne signifie pas nécessairement que les textes étaient seulement lus à Lyon, bien sûr, parce que c'était un grand centre, hein. Les textes étaient diffusés partout en France, je pense.
Alors, l'un des buts donc, de ton temps ici, c'est d'aider à la transformation de la thèse en monographie, te donner le temps de faire ce travail d'écriture, mais également de recherche complémentaire que tu souhaites faire. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans cette conversion ? Parce que fondamentalement, d'une certaine façon, beaucoup de gens voient la thèse comme déjà un premier travail monographique. Or, c'est jamais tout à fait, ça ne devrait pas être une monographie après, sans changement. Donc, qu'est-ce que tu vois comme déjà les changements et puis quelles difficultés
Difficulté très pratique, c'est que je dois supprimer la moitié des pages.
Alors, je précise donc que la thèse qui circule fait un peu plus de 550 pages.
Ouais, pour une thèse française, c'est pas énorme, mais pour une thèse néerlandaise, c'est gigantesque. Et donc, pour le livre qui sera publié par Repol, c'est une maison d'édition belge, on m'a demandé de rendre un manuscrit de 100 000 mots, donc 200 pages environ. Donc, pour moi, le grand défi, c'est vraiment de sélectionner les études de cas qui comptent vraiment. Dans ce que j'aimerais donc montrer, que ces textes ont permis aux gens de créer une certaine communauté et à la fois créer une communauté et parler de certains sujets actuels. Donc il faut que je sélectionne des cas parce que dans la thèse j'ai été assez exhaustive parce que je voulais rien oublier ou je voulais pas être reprochée par le jury d'avoir oublié des textes pertinents pour un chapitre en particulier. La thèse a été écrite en trois parties et le livre sera écrit en trois chapitres seulement. Il faut une réorganisation de toute façon.
La thèse a été écrite en français, ce qui est pas courant pour des thèses néerlandaises. Ça nous demandait déjà un travail important. Tu maintiens ce choix linguistique pour le livre.
Oui.
Et pourquoi?
Je me suis posé la même question quand j'ai écrit la thèse, parce que normalement on écrit les thèses aux Pays-Bas en anglais, mais moi je voulais vraiment que mon travail soit lu par des francophones. Et c'est la même chose pour le livre. Je pense vraiment que la culture joyeuse, et donc la position du moment joyeux dans cette culture, mérite un livre en français, parce que la présence de cette culture était vraiment très grande en France. Et bien sûr, c'est aussi le cas aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie. Mais à mon avis, donc, les textes français sont une sorte de base pour une diffusion des pratiques, des activités, des livres, des textes dans d'autres parties de l'Europe. C'est pour ça que j'ai fait le choix de publier en français.
Et enfin, pour finir, j'ai une question un peu plus ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ce travail donc t'occupe, mais inévitablement, quand on fait de la recherche, on trouve d'autres choses et que d'autres portes s'ouvrent. Donc, quelles sont les perspectives qui viennent troller ton écriture et t'empêchent d'avancer parce que c'est de nouvelles avenues de recherche qui se présentent à toi?
Oui, en fait, l'approche de la thèse, c'était vraiment donc, de répondre à la question « Alors, c'est quoi le moment joyeux ?» Donc, c'est ça ce que j'ai fait dans la thèse, mais pendant... pendant les recherches, j'ai rencontré beaucoup d'autres textes festifs, joyeux, qui méritent une étude plus approfondie. Et on en a parlé déjà un peu, mais un texte qui m'intéresse en particulier, par exemple, c'est La bataille entre Carnaval et Carême, texte qui appartient vraiment aux festivités de Carnaval et qui met en scène donc des figures allégoriques, Carême et Carnaval, qui sont en conflit. Et en fait, ce texte connaissait une diffusion très très large, mais a commencé en France dans un manuscrit très connu qui conservait dans la BNF. Donc en ce moment, je travaille sur ce genre de petits projets, donc de textes que je n'ai pas pu traiter dans la thèse. Et bien sûr, il faut aussi penser à d'autres projets de recherche, d'autres grands projets de recherche. Ce que j'aimerais vraiment préparer aussi pendant cette année, c'est un projet encore sur la culture joyeuse, mais en combinaison avec les thèmes du bon gouvernement et mauvais gouvernement. Il y a beaucoup de textes et de livres qui mettent en scène ces figures du bon gouvernement, mauvais gouvernement. À mon avis, ça mérite aussi un projet plus approfondi, axé sur donc la France et les Pays-Bas aussi en même temps.